Vous êtes bien sur Globule Radio 90.5 FM.
Nous sommes
Ismaël,
Manéa,
Lynn,
Lison
et Sacha.
Il y avait aussi avec nous Luna en début de semaine et Théa en fin de semaine.
Cette semaine, nous apprenons à faire de la radio avec Globule Radio.
Nous étions présents au Festival des Petits Asticots. On en a profité pour faire des interviews des artistes qui jouaient les spectacles.
On est parti avec nos micros et nos casse-croûtes dans les sacs à dos pour aller voir des merveilleux spectacles un peu partout dans la vallée.
On a pu interroger les comédiens et les metteurs en scène, ainsi que les organisateurs du festival.
Ils nous ont appris plein de choses intéressantes et nous voudrions vous les faire écouter.
Mais juste avant ça, je laisse tout le monde se présenter, chacun à son tour.
Allez, c'est parti!
Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 12 ans, je fais de l'escalade, du ski et de la danse. Et si j'étais un clown, je serais un clown heureux.
Hello everybody, I'm Elizabeth II. Moi j'ai 150 ans, c'est un peu trop vieux pour mon âge. Mais aujourd'hui je suis à Chamonix avec Globule Radio. Parce que ma fille elle est en train de travailler à Globule Radio. Je vois le Mont Blanc comme vous, vous le voyez pas. Moi si j'étais un clown dans mes années précédentes, et bah je voudrais être tellement joyeuse, tellement farceuse. En fait c'était Luna. Voilà.
Je m'appelle Lynn, pensais, je sais pas en fait. J'ai 33 poules, 44 cochons et 28 bœufs. J'aime beaucoup ma vie, au revoir.
Et si je serais un clown, je serais un clown tueur.
Oh oh oh, non, en fait, je suis pas mal.
Bonjour, c'est Lison à Globule Radio. J'ai 7 ans, ma passion c'est Globule Radio et ce que j'aime par-dessus tout c'est faire des interviews. Si je serais un clown, je serais un clown rigolo.
Salut tout le monde, c'est Manéa sur Globule Radio. J'adore l'automne, j'adore les couleurs des arbres, j'aime bien voir les feuilles tomber parce que c'est beau. Je fais du théâtre et ce que j'aime dans le théâtre c'est les déguisements et surtout les décors. Et si j'étais un clown, je serais le clown danseur.
Bonjour. Je m'appelle Sacha, j'ai 11 ans, j'ai un chat et j'aurai un chien la semaine prochaine. Si je serais un clown, je serais un clown tueur de bœuf. J'aime bien la viande.
Salut, moi c'est Théa, j'ai 5 ans et demi et j'adore les spectacles. Si je serais un clown, je serais un clown rigolo. Gringy.
Globule Radio, je suis à Valorcine avec Marie-Solène Lafont et Guillaume Genot qui font partie de l'organisation du festival. Bonjour Marie-Solène, quel est votre rôle dans le festival ?
Bonjour Lynn, et moi je suis en charge de la programmation et de la coordination du festival.
D'où vient le nom Petits Asticots à l'origine ?
Les Petits Asticots, c'est le concepteur du festival qui s'appelle Alain Dubin. Qui, il y a 20 ans, puisque le festival a 20 ans, a imaginé ce festival et ce nom en référence à ce que j'ai entendu, puisque moi j'y étais pas, à ses petits-enfants qu'il appelait les petits asticots. Et aussi un petit clin d'œil à la Toussaint, puisque le festival se passe pendant la période des vacances de la Toussaint. Et à la Toussaint, c'est la fête des morts. Et il y avait une référence un peu rigolote avec les asticots pour la deuxième lecture, le second degré, que les parents comprennent peut-être un peu plus. Et en plus, c'est ça le festival. C'est, généralement, il y a des spectacles qui sont adressés aux enfants avant tout, mais aussi qui s'adressent aux parents. Il y a plusieurs niveaux de lecture et donc c'est ça qui est aussi rigolo. Voilà, je pense pouvoir l'expliquer comme ça.
Comment vous choisissez les spectacles pour le festival ?
Eh bien, on va voir des spectacles. En fait, notre métier, c'est d'aller voir des spectacles. Donc là, comme c'est un festival jeune public, l'idée, c'est d'aller regarder des spectacles jeune public, de compagnies de la région, mais aussi de la France entière, et même des fois des compagnies étrangères. Et on fait une sélection ensuite, et on essaye de répondre à différents âges. Donc on essaye de trouver des spectacles pour les tout-petits à partir de peut-être quelques mois et puis ensuite de proposer des spectacles pour les 3 ans, 4 ans, 5 ans jusqu'à des spectacles un peu plus familiaux, donc à partir de 7 ans et pour toute la famille. Et on essaye aussi de proposer des esthétiques différentes. Donc on va proposer de la marionnette, de la danse, du théâtre. Voilà, l'idée c'est de proposer la plus grande diversité de spectacles que l'on peut.
Est-ce que vous voyez beaucoup de représentations avant de vous décider ?
Ça dépend. Y a des fois, on peut voir un spectacle et on se dit « Ah ben ça, celui-là, c'est sûr, on essaiera de le programmer. » Mais oui, on voit plein de spectacles avec Guillaume, qui est aussi à la programmation avec moi. On peut regarder, je sais pas, aller voir peut-être 20, 30, 40, ça dépend des années, mais ouais, 40 spectacles par an, peut-être plus même.
Est-ce qu'il y a des personnes vous aident pour choisir ?
Oui, il y a Guillaume. En fait, on s'entraide pour choisir les spectacles. Et puis après, comme le festival, on le fait avec la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, donc avec nos collègues de la salle culturelle, on discute ensemble pour pas faire les mêmes spectacles ou proposer des esthétiques différentes. Donc ensemble, on est comme un collectif de programmation et on essaye d'avoir la plus grande diversité de spectacles qu'on peut et sur la vallée de Chamonix et sur la vallée plus bas à Sallanches. Voilà.
Est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a marqué dans votre enfance ?
C'est une très bonne question. Dans mon enfance, pas spécialement, je dirais plutôt en tant que jeune adulte. C'était un spectacle de marionnettes d'un grand marionnettiste hollandais, voilà, qui s'appelle, sa compagnie s'appelle Puppet Master. Non, je ne vais pas retrouver le nom du marionnettiste ni de sa compagnie, c'est pas grave. En tout cas, c'était un spectacle de marionnettes à taille humaine, donc de très grandes marionnettes, et c'était une histoire de vampires. Et c'était super, et j'ai découvert par ce biais-là la marionnette.
Est-ce que ça vous a donné envie de travailler dans ce domaine ?
Je faisais mes études quand j'ai vu ce spectacle-là, déjà dans le théâtre. Donc, plus jeune, je faisais des spectacles avec, avec mon frère et des amis, et du coup c'est ça qui m'a donné envie de travailler dans le spectacle.
Est-ce que les spectacles s'adressent que aux petits ou bien est-ce que les adultes peuvent les aimer ? J'ai oublié.
Oui, l'idée c'est que on propose certes des spectacles pour enfants, mais ce sont des spectacles que, comme ils nous ont plu nous en tant qu'adultes, a priori ça devrait aussi plaire aux adultes. On essaye de choisir des spectacles qui pas forcément qui ont une double lecture, mais en tout cas qui plairont et aux parents et aux enfants, parce que les parents, ils accompagnent les enfants, donc aussi, il faut qu'ils passent un bon moment.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Combien de spectacles proposés ?
Alors, cette année, on accueille 15 compagnies, une quinzaine de compagnies, donc qui proposent au total 15 spectacles, et les spectacles jouent plusieurs fois, généralement, parce qu'on appelle ça des jauges, la capacité des salles, c'est des petites jauges, et du coup, ça permet de pouvoir qu'un maximum de public puisse en profiter. Donc 15 compagnies, mais à peu près une quarantaine de représentations, de levées de rideaux, comme on dit. Donc ça veut dire que 40 spectacles, 40 représentations au total.
Combien de spectateurs en tout ? Il paraît que la plupart des spectacles sont complets.
Oui, tous les spectacles sont complets. Comme disait Guillaume, il y a des jauges. Donc il y en a qui c'est des très grandes jauges, peut-être 300 personnes. Et d'autres, comme par exemple demain à Servoz, c'est des toutes petites jauges, c'est 40 personnes. Donc on essaye de... Et après, le nombre exact, je ne sais pas, on est peut-être sur 5 000, non ? C'est peut-être beaucoup ? Entre 4 et 5 000 spectateurs sur la totalité du festival, donc entre la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc et notre communauté de communes. Et aussi, là, on est sur le temps tout public, mais il y a eu un temps scolaire la semaine dernière. Donc voilà, tout réuni, ça fait entre 4 000 et 5 000 spectateurs.
Combien êtes-vous pour l'organisation ?
Alors, nous, pour l'organisation, on est une équipe de 5. Après, on a des bénévoles qui viennent nous aider pour installer la décoration, pour accueillir les gens, pour voilà. Et puis, je pense que sur la vallée en bas, ça doit être peut-être sensiblement la même chose. On est des petites équipes, mais on se fait aider par des bénévoles.
Est-ce qu'il y a des spectacles plus difficiles à gérer que d'autres ?
Ah, c'est une bonne question. Eh bien, par exemple, il y a des spectacles qui demandent beaucoup de techniques, parce que comme on va de ville en ville, les lieux qui nous accueillent n'ont pas forcément de salle dédiée au spectacle. Donc, il faut qu'on amène la technique, monter une scène, des rideaux, la lumière, tout ça. Donc ça, potentiellement, ça peut être délicat et nous prendre du temps. Mais après, on a Pierre chez nous qui lit les feuilles, les fiches techniques et puis qui fait en sorte aussi que tout se passe bien.
Cette année, c'est la 20e édition des Petits Asticots. Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup ?
Ah ben on l'espère, c'est l'idée.
Est-ce que le festival peut évoluer ?
Ah ben chaque année, on essaye de le faire évoluer sur les accueils des compagnies, du public, sur nos propositions artistiques, ce qu'on va programmer, essayer d'avoir d'autres esthétiques, des choses nouvelles, peut-être des compagnies qui sont peut-être déjà venues mais qui ont des nouveaux spectacles. On essaye de tous les ans, on peut se diversifier. Tous les ans, ça évolue.
Est-ce que le service culturel organise d'autres événements pour le jeune public ?
Alors oui, donc on a ce gros événement, mais ensuite pour le jeune public, on va avoir aussi toutes les représentations scolaires, qu'on appelle, qui vont être à partir de 6 ans jusqu'à peut-être les adolescents, le lycée. Et donc oui, on essaye de répondre, en tout cas de proposer des spectacles pour tout le monde. Donc, et même l'année dernière, et c'est un projet qu'on va continuer à l'avenir, c'était un projet crèche, on avait fait venir une compagnie qui avait joué dans les crèches, donc directement auprès des enfants, dans les lieux, dans les crèches. Donc on essaye de proposer, de 3 mois à 18 ans, quoi, sur toute l'enfance.
Merci d'avoir répondu aux questions de Globule Radio.
À bientôt.
Plastico. Globule.
Coucou tout le monde. Vous êtes sur Globule Radio avec Luna
et Manéa
et Lison.
La salle était remplie.
Les acrobates incroyables avec la compagnie des rois vagabonds.
Les deux clowns jouaient de la musique et en même temps de faire de l'acrobatie. On pensait qu'ils jouaient pour de faux alors qu'en fait c'était eux.
Et à la fin, il y a eu un tonnerre d'applaudissements pour Igor et moi.
Bravo!
Bonjour, comment vous vous appelez?
Moi je m'appelle Moa.
D'où venez-vous?
Nous venons du Jura.
On a été très impressionnés par vos acrobaties dans ce spectacle. Vous avez pris beaucoup de temps à apprendre toutes ces acrobaties?
Oui, j'ai en fait des acrobaties depuis que je suis enfant. Je me suis toujours entraînée, hein, l'acrobatie, ça demande tout le temps de l'entraînement, donc je m'entraîne tous les jours. Et avec Igor, mon partenaire de scène, on pratique tout le temps aussi. Et avant le spectacle, par exemple, on prend une heure pour refaire toutes les acrobaties, parce que tout est réglé. Quand il y en a un qui fait une petite erreur, l'autre, on est déréglé vite, donc il faut tout le temps pratiquer, ouais.
D'accord. Est-ce que c'est dur de faire de l'acrobatie en même temps de la musique ou pas?
C'est pas que c'est facile, mais j'adore. Ça demande des acrobaties avec quelque chose dans la main. Donc, par exemple, le violon et l'archer, pareil, ça change en fait les poids, ça change l'organisation. Mais après, ça fait très longtemps, parce que déjà quand j'étais enfant, je faisais un peu d'acrobatie avec le violon. Et je faisais du monocycle avec le violon. Le violon, il est devenu un peu comme une prolongation de mon corps. Et du coup, maintenant, ça me paraît moins difficile qu'avant.
Honnêtement, je trouve que la musique classique est assez ennuyante. Est-ce que vous avez voulu rendre cette musique plus marrante dans votre spectacle ?
On voulait en tout cas la jouer comme nous, on l'aime et nous on l'aime comme on le fait en fait en étant clown. Donc après, est-ce que, je sais pas, c'est à vous que je dois demander, est-ce que c'était moins ennuyeux de ce que vous avez imaginé ou pas?
Oui, c'était beaucoup plus marrant que d'habitude. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter comme histoire dans ce spectacle?
Alors, nous, on voulait raconter aucune histoire. Parce qu'on fait du clown de situation. Et en fait, nous, on vient donner un concert de musique classique. Et on est acrobate. Et les choses ne se passent pas comme prévu. Mais on n'est pas là pour raconter une histoire. Mais je sais qu'au fil des années, il y a des histoires qui se racontent. Mais malgré nous, le public, les spectateurs qui traversent ou qui projettent les histoires et qui voient des histoires, parfois non, mais souvent les gens ils nous racontent que ce qu'ils ont vu comme histoire et ça leur a parlé de certaines choses. Mais nous, en tout cas, c'est pas du tout notre moteur pour être là. On n'est pas là pour raconter une histoire, on est là pour, au final, rencontrer le public.
Pourquoi vous êtes-vous déguisé en clown?
Alors moi déjà, je préfère dire que je suis costumée en clown parce que c'est toute une recherche de qu'est-ce qui est mon costume de clown et je me sens pas vraiment déguisée mais je sens que je me mets des habits et je me maquille d'une manière qui me permet d'être complètement là avec les gens et ça permet aux gens de me voir autrement que ce que je suis dans la vie. Et un costume de clown, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est assez... C'est pas un jour que j'ai dit je veux me mettre ça, en fait. C'était très long, ça a pris plusieurs années et j'ai eu des envies fortes. Par exemple, je voulais du rouge et puis j'avais une sensation que je voulais me cacher un peu aussi parce que je pense que j'avais un peu peur d'être complètement présente avec le public. Et donc, je m'étais imaginé, ah, si j'avais une deuxième peau, blanche qui me sert un peu. Et c'est comme ça que je me suis mis les collants, c'est comme ça que je me suis mise aussi beaucoup de maquillage blanc sur le visage. Il y a des clowns qui ne se mettent aucun costume, qui ne se maquillent pas et qui sont tout à fait clowns aussi. Donc c'est très individuel, c'est une recherche vraiment personnelle.
Salut, c'est Lison maintenant. D'où vient l'idée du spectacle ?
En fait, l'idée de ce spectacle, c'était avec mon partenaire Igor, on voulait monter un spectacle de clowns. Et c'était pas facile au début, parce qu'on savait, on n'avait jamais fait ça, on a fait plein d'autres spectacles, mais on voulait faire un duo de clowns. Et donc, il y a un autre clown qui nous a aidés, qui nous a dit « Mais vous savez faire quoi ?» On lui a dit « Bah, on sait faire de la musique classique et puis on sait faire des acrobaties. » Donc il a dit « Bah, faire des numéros de clowns. » Comme les clowns dans les cirques, hein, ils avaient des petits numéros. Ils n'avaient pas une heure et quart de spectacle. Ils avaient des petits numéros entre les numéros de chevaux, entre les numéros de trapézistes. Et donc on a commencé comme ça.
Depuis combien de temps existe votre compagnie ?
Depuis 2008, on a créé Les Rois Vagabonds.
Avez-vous d'autres projets ?
En fait, avec ce spectacle, le projet, c'est de tout le temps le jouer. Et de mûrir avec, de le porter loin, de vieillir avec. Et puis, en fait, on a des projets pour comment et où aller le jouer. Et donc là, on a un projet avec un chapiteau. On a racheté un grand chapiteau. Et parfois, on le monte quelque part et on reste un mois. Et on joue tous les jours. Et comme ça, on voit parfois des gens qui, d'habitude, ne vont pas au spectacle et viennent. Ces gens, ils viennent parce qu'on est toujours là. Et puis, ils entendent parler par les autres qu'il faut qu'ils aillent voir ce spectacle. Et nous, ça nous plaît beaucoup parce que comme ça, il y a des gens qui ont l'habitude d'aller au spectacle qui viennent et il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle, qui regardent plus souvent la télé ou qui font beaucoup de sport mais qui ne vont pas au spectacle. Et donc, on aime bien ce projet-là de retrouver un public très mélangé avec des gens qui ont l'habitude et des gens qui n'ont pas l'habitude.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
C'est Sacha et le 3 c'est Ismaël. Nous avons regardé le spectacle À quoi rêvent les méduses de la compagnie En attendant à Chamonix au Majestic. Nous avons trouvé le décor magnifique. Pourquoi ? Parce qu'il brillait dans le noir. C'était un spectacle à partir de 2 ans et plus. Ça parlait de méduses qui rêvent. Attention, il faut être très veillé au spectacle, sinon vous vous endormez. Et tout de suite, on retrouve Jean-Philippe Nas,
qui est le metteur en scène de À quoi rêvent les méduses.
Je m'appelle Jean-Philippe Nas, je dirige une compagnie qui s'appelle La Compagnie En Attendant, qui est basée à Dijon. Et je suis au festival Les Petits Asticots avec un spectacle qui s'appelle À quoi rêvent les méduses, qui est un spectacle pour les enfants à partir de 1 an, qui a été imaginé avec une auteure-illustratrice qui s'appelle Mélanie Rutten. Voilà.
Bonjour Jean-Philippe Nas.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on voit dans le spectacle ?
Qu'est-ce qu'on voit dans À quoi rêvent les méduses ? Ouh là 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 là. Alors, je peux pas tout raconter. En tout cas, c'est un voyage, en fait, ce spectacle. C'est un voyage dans le monde des rêves, un voyage onirique. On voit quelqu'un qui est en train de dormir quand on entre dans la salle. Et puis, petit à petit, on va découvrir des choses sous son lit, un peu partout.
Vous avez choisi de faire jouer un seul comédien sur une feuille de papier. Pourquoi ?
Oh ben, c'est que des bonnes questions. Pourquoi ? Tu sais, des fois, ce qui est bizarre quand on commence la création d'un spectacle, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi on choisit des choses. C'est des sortes d'intuitions. Là, sur ce spectacle-là, j'avais envie de travailler sur la question du sommeil, sur la question des rêves. Donc pour moi, c'était intéressant qu'il y ait une seule personne pour qu'on puisse être vraiment avec lui. Et l'idée de la feuille de papier blanc, c'était qu'elle puisse représenter un lit, en fait. Tu vois, donc on a l'impression qu'il est allongé sur son lit. En même temps, la feuille blanche, c'est aussi le début de quelque chose. La feuille blanche, on ne sait pas du tout encore ce qu'on va dessiner, ce qui va se passer. Donc il y avait ces deux idées-là dans le démarrage du spectacle.
Quel est le rapport entre les méduses et le sommeil ?
En fait, j'avais entendu une émission sur France Inter qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin ». Et dans cette émission, c'était une émission qui parlait justement du sommeil, qui se posait des questions, qui essayait de comprendre le fonctionnement du sommeil et de se dire est-ce que tous les animaux dorment en fait ? On sait qu'il y a des animaux qui dorment. Et à un moment donné, dans cette émission, ils ont parlé des méduses, puisque les méduses n'ont pas de cerveau comme nous. Elles ont des cellules nerveuses, mais elles n'ont pas de cerveau. Et il y a eu des scientifiques qui ont fait des études sur le sommeil des méduses. Et ils sont aperçus que les méduses dormaient aussi. Il y avait une partie d'elles qui dormait à des moments donnés, une autre pas. Et du coup, avec Mélanie Rutten, qui est l'illustratrice avec qui on a travaillé, on s'est dit, ah ben tiens, est-ce que les méduses, elles dorment aussi ? Et à un moment donné, dans le spectacle, dans la création, quand Mélanie a peint des formes, que vous découvrirez pendant le spectacle, elle a peint une très très grande forme qui ressemblait à une méduse. Et on s'est dit, ah, c'est amusant, voilà. C'est pour ça qu'on a appelé le spectacle « À quoi rêvent les méduses ?»
Est-ce que les méduses rêvent aussi ?
Pourquoi vous avez choisi de parler du sommeil ?
Ce spectacle, il s'adresse aux tout petits, aux enfants à partir de 1-2 ans. Et c'est des âges où le sommeil se met en place. C'est assez compliqué, c'est particulier le sommeil, ça reste encore mystérieux. Pourquoi on dort ? Est-ce que tu sais, toi, pourquoi on dort ? Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je sais que j'ai besoin de dormir. Il y a des moments où je suis fatigué. Et si jamais je ne me couche pas ou si je me couche trop tard, on se rend bien compte le lendemain, si on n'a pas assez dormi, on n'est pas en pleine forme. Donc on sent bien que le sommeil est très très important pour nous. Mais au-delà des aspects de santé, on fait des rêves, des cauchemars, on pense à des choses et on voyage aussi pendant le sommeil. Donc ça m'intéressait de travailler et de parler de cette question-là avec les petits et avec les parents aussi.
Jean-Philippe, vous êtes metteur en scène. C'est quoi ce métier ?
Souvent, l'exemple que je prends pour parler de mon métier, c'est je fais un parallèle avec le sport. Et je dis souvent que le metteur en scène, c'est un peu comme l'entraîneur dans un sport collectif. Moi, j'ai fait du basket quand j'étais jeune et c'est vrai que mon métier ressemble à celui-ci. C'est-à-dire que le metteur en scène, il n'est pas sur scène. C'est comme les entraîneurs, en fait. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont sur le côté, sur le banc de touche. Ils choisissent les joueurs. Moi, je choisis les comédiens. Et puis, ils définissent un peu quelles vont être les stratégies de jeu sur le terrain. Et moi, je les aide, je les guide. Et le spectacle, c'est un peu comme un match. Il est réussi si les équipes sont bonnes, si le metteur en scène, l'entraîneur a bien fait son travail, si le public a été bon aussi, parce que c'est important. Pour faire un bon spectacle, il faut aussi un bon public. Voilà. Donc le metteur en scène, il organise beaucoup de choses. C'est lui qui a des idées, mais c'est pas lui qui imagine tout. Moi, par exemple, le spectacle « À quoi rêvent les méduses », on était 12 personnes pour le créer ensemble. En tout, voilà, il y avait 12 personnes pour créer ce spectacle.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
En fait, j'ai pas choisi ce métier. Quand j'étais plus jeune, je savais pas très très bien quoi faire. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai travaillé dans des théâtres. Et à un moment donné, suite à une rencontre avec un autre metteur en scène, ça m'a donné envie d'essayer. J'ai eu envie d'essayer de mettre en scène des spectacles. Et je me rends compte en fait que c'est vraiment ces rencontres-là qui m'ont fait choisir ce métier. Je ne le connaissais pas bien, donc je n'ai pas choisi. Ça s'est imposé à moi. C'est mon destin, on va dire.
Est-ce que le théâtre, c'est comme le cinéma ?
Alors non. Non, une des grandes différences en fait entre le théâtre et le cinéma, c'est que le théâtre, on appelle ça du spectacle vivant. C'est-à-dire que ce qui va se passer sur scène sont des personnes qui sont en vie, que vous allez pouvoir croiser, discuter avec elles. Alors que quand tu vas au cinéma, ce que tu vas voir, c'est sur un écran. Ça a déjà été enregistré, ça a déjà eu lieu. Alors que le théâtre, même si on a répété en amont, ce que tu vas voir sur scène, ça a lieu en direct. C'est une des grandes différences entre le théâtre et le cinéma. Et au niveau du jeu aussi, c'est assez différent parce que quand on joue un personnage au cinéma, la caméra, elle vient très près de toi. Alors que quand tu joues au théâtre, ton jeu, il doit aller vers le spectateur qui est un peu plus loin. Donc, ce n'est pas les mêmes modes de jeu non plus.
J'avais une question à la base de celui-là. J'aimerais savoir si dans les théâtres, on fait des storyboards, comme c'est des dessins où il y a toutes les scènes.
Alors moi en tout cas je ne travaille pas comme ça. Je sais qu'il y a des fois des metteurs en scène qui imaginent déjà beaucoup les choses avant de commencer les répétitions. La raison pour laquelle on fait des storyboards au cinéma, c'est que la technique est très complexe au cinéma et que ça prend beaucoup de temps de régler la caméra, les éclairages, etc. Ce sont des très très grosses équipes, donc il faut que le maximum de choses soient préparées en amont. Au théâtre c'est assez différent. On est beaucoup plus sur l'idée que les choses elles vont s'inventer au fur et à mesure. Donc on va se retrouver dans une salle de spectacle, on va commencer à répéter et on laisse plutôt surgir les choses. Alors qu'au cinéma, les choses elles sont beaucoup plus préparées en amont. C'est assez différent. On prépare beaucoup de choses au théâtre. Mais en tout cas, moi j'ai pas besoin d'un storyboard. Ce qui m'intéresse, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est partir d'une feuille blanche et puis réunir des gens autour de cette feuille blanche et on va imaginer les choses ensemble.
Ok, merci. On a posé toutes les questions. Je vous souhaite une bonne journée. On est sur Globule Radio 90.5 FM.
Merci Globule Radio.
They say, oh my gosh, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me there while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you every time. And oh my, just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again.
They say, oh my gosh, I see you walking by.
Take my hands, my dear, and look me in. Just like I'm Bunky, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me.
interviewer Hélène, Boris et Clément. Ils jouent dans la pièce Hansel et Gretel du collectif Ubik.
Dans notre super équipe, il y a
Manéa,
Luna,
Ismaël,
Sacha
et Lynn.
On a adoré ce spectacle et ils ont trouvé une autre manière d'interpréter Hansel et Gretel.
Gretel alias Hélène, Hansel alias Boris et la sorcière alias Clément. Ils étaient tous les trois assis sur des chaises noires. Ils étaient habillés en noir et le fond est noir également. Ils ne se sont pas levés une seule fois dans le spectacle. Ils ne jouaient qu'avec le haut de leur corps, que ce soit une scène ou un instrument. D'ailleurs, leurs instruments particuliers ont attiré l'attention du public. C'était génial.
Maintenant, moi et Lynn allons interviewer Boris Winter qui a interprété Hansel dans la pièce Hansel et Gretel. Il est musicien et comédien.
Vous jouez sur fond noir. Pourquoi n'avez-vous pas fait de décor ?
Alors, on n'a pas fait de décor parce qu'on a trouvé que la description du décor suffisait. Les mots qu'on utilise pour décrire, par exemple, l'ambiance de la forêt, la chaumière du bûcheron, tout ça, on s'est dit que c'était même presque mieux de permettre aux gens de les imaginer comme ils les voulaient, plutôt que de leur donner un décor à voir. Ça, c'est la raison poétique. Et une autre raison, c'est que quand on fait beaucoup de spectacles, ce spectacle, on le fait partout en France, c'est très compliqué de se déplacer avec un grand décor. Il faut un camion, tout ça. Et là, d'être comme ça, sans décor, ça nous permet de jouer partout et d'aller même dans des toutes petites villes qui ont des petites salles, d'aller un peu partout sans avoir trop de choses à transporter.
Pourquoi vous avez voulu faire Hansel ?
Alors, je sais pas tellement que j'ai voulu faire Hansel. Ça s'est fait comme ça au fil des répétitions. Le texte, il a été beaucoup écrit en improvisant, en cherchant comment on allait adapter ce conte. Et on s'est dit que Hansel, ça m'allait bien et que la sorcière, elle était super bien faite par Clément.
Pourquoi vous vous intéressez au conte ?
Alors, c'est une très bonne question qui n'est pas évidente. Moi, j'adore les contes parce que c'est des histoires très, très, très anciennes. Il y a des versions des contes qu'on connaît. Par exemple, nous, c'est basé sur la version des frères Grimm. Mais le conte de Hansel et Gretel, peut-être sous un autre nom, il existe depuis on ne sait pas quand, depuis peut-être des milliers d'années. Et c'est des histoires qui en disent beaucoup, sur nous autres, les humains, parce qu'elles sont tellement vieilles. Et elles existent encore aujourd'hui. Elles ont été racontées pendant 1000 ans. Donc je trouve que c'est une histoire très, très riche, très profonde, parce qu'elles racontent plein de trucs. Et on les trouve encore intéressantes aujourd'hui, en 2021, alors que peut-être qu'elles ont été créées il y a 1000 ans.
Combien de temps avez-vous mis pour faire ce spectacle ?
Alors, c'est un peu compliqué de te répondre parce que ce spectacle, il a d'abord été joué par d'autres personnes que nous. Et les gens qui ont écrit la première version de ce spectacle, ils l'ont écrit pendant au moins 1 an, je crois. Comme il n'y avait rien de déjà écrit, entre l'écriture des dialogues, des textes, les répétitions, l'écriture de la musique, tout ça a pris au moins 1 an.
Quel instrument vous avez préféré jouer dans ce spectacle ?
Alors, j'aime beaucoup jouer la scie musicale, parce que c'est un instrument très étrange, très bizarre, très rare, et que je ne savais pas du tout comment en jouer avant de faire les répétitions pour ce spectacle. C'est pas un instrument que je savais jouer encore il y a 1 an, je savais pas du tout en jouer. Et quand on m'a proposé de faire ce spectacle, j'ai dû apprendre à en jouer, et je n'en joue pas encore tous les jours très bien, mais j'aime beaucoup ce son, on dirait un son de martien un peu, et j'aime beaucoup. Ouais.
I'm going home to meet my father. I'm going
Avez-vous fait d'autres instruments que ceux que vous avez joués dans le spectacle ?
Alors oui, moi en fait mon autre métier quand je ne fais pas des spectacles, je suis violoniste. Donc en fait là dans le spectacle je ne joue pas de violon, mais mon autre métier c'est de jouer du violon. Donc je joue un autre instrument surtout.
Depuis combien de temps vous jouez du violon ?
J'ai commencé le violon quand j'avais 6 ans. Ouais, ouais.
Et du coup maintenant vous avez quel âge ?
Oh, on ne demande pas ce genre de questions. Tu dirais que j'ai quel âge ?
Je sais pas, moi, 27 ans.
Ouais, toi, t'es super sympa. Toi, t'es pas sympa. j'ai 34 ans.
Ok, d'accord. Bah alors, ça fait beaucoup de temps.
Ça fait quelques années que je joue du violon, ouais, ça fait un moment.
Ah, mais si. Tu vois, c'est écrit. Les deux adultes prirent donc la décision d'abandonner Hansel et Gretel au fin fond des bois. Voilà, tout simplement. Oh non, j'ai peur, je veux pas aller dans la forêt, moi.
Non, mais t'en fais pas, Gretel.
Et maintenant, on écoute Hélène Leyug, comédienne musicienne, qui joue Gretel dans Hansel et Gretel, du collectif Ubik. Quel moment de la pièce avez-vous aimé le plus jouer ?
Alors, il y a plein de moments que j'aime bien. La forêt, c'est assez sympa parce que c'est très intense. Il se passe plein de choses. On fait un peu peur et tout ça. Mais j'aime beaucoup le canard aussi. C'est assez drôle. C'est beaucoup plus léger et ça se complète bien, quoi.
Dans quelle pièce avez-vous joué à part celle-là ?
À part ça, alors moi, je fais pas mal de théâtre musical. Donc, j'ai une compagnie qui s'appelle la compagnie Sans Lézard avec laquelle je fais beaucoup de spectacles. Il y en a un qui s'appelle le Cabaret du Poilu, qui est un spectacle sur la guerre de 14-18. Un autre spectacle qui s'appelle Au cœur des femmes, qui parle des femmes, donc, enfin des femmes, des hommes aussi. Hein. Un autre spectacle avec une accordéoniste qui s'appelle À tout bout de champ, avec plein de très jolies chansons. Où là, je ne joue pas de violon, je fais que de la guitare et puis du théâtre. Voilà.
Quel est votre plus beau souvenir depuis que vous avez commencé votre carrière ?
Ouh là là ! Alors, je pense justement à une date du Cabaret du Poilu. On a joué devant des enfants de votre âge et c'était juste waouh. Ils étaient à fond avec nous et à la fin, ils nous ont fait une standing ovation. Ils chantaient une des chansons du spectacle avec nous. C'était tellement émouvant, j'en pleure encore en vous le disant. C'était très très beau.
Bah, merci beaucoup en tout cas et à bientôt.
Maintenant, c'est Ismaël, on est toujours au Majestic et on va interviewer Clément Latour, comédien du collectif Ubik.
La vieille dame. Si aimable en apparence. Oui, comme ça, on dirait pas. Hein.
Non, on dirait pas.
Mais qui, en réalité, n'était qu'une sorcière.
Bonjour Clément Latour.
Bonjour, bonjour Ismaël.
Pourquoi vous restez tout le temps assis au lieu de debout dans votre spectacle ?
Alors moi je me lève hein, un moment. T'as vu ou pas ? Ouais. Alors écoute, moi je suis tout le temps assis parce que en fait je joue mes instruments, tu vois. Donc j'ai deux luths différents et du coup je dois changer souvent d'instrument, donc je peux pas avoir de sangle à mes instruments. Du coup je peux pas jouer debout parce qu'il faudrait que j'ai une sangle pour les tenir. Comme je change très très vite, je peux pas mettre de sangle, donc du coup je peux pas jouer debout. Voilà.
Vous avez fait d'autres contes, La Petite Sirène et La Belle au Bois Dormant. Pourquoi vous vous intéressez aux contes ?
Un conte, on peut le revisiter, on peut en faire plein de choses, et puis aussi parce que c'est super sympa. Le public, les enfants, je pense qu'on aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est pour ça, je pense.
Pourquoi c'est vous qui faites la sorcière alors que vous êtes un garçon ?
Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Et parce que déjà, Hélène, elle fait la conteuse. Donc du coup, il ne reste plus que deux garçons. Et du coup, c'est drôle aussi. Parce que comme je fais un rôle féminin, mais que je suis un garçon, du coup, il y a toute une ambiguïté là-dessus. Et du coup, généralement, c'est assez rigolo. Enfin, t'as vu, quand j'ai mis mon foulard, ça a fait beaucoup rire. Donc généralement, c'est parce que c'est drôle, en fait. Voilà.
Comment vous avez choisi votre rôle ?
Alors moi je l'ai choisi on m'a choisi surtout pour les instruments parce que je joue des instruments qui sont rares, donc du coup le luth et le théorbe, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui en jouent en France, donc du coup ça a surtout été sur ça, voilà.
Vous avez joué des instruments dans votre enfance ?
Oui, j'ai commencé par la guitare, et puis à 25 ans, j'ai commencé le luth. Voilà. Enfin, les luths, parce que c'est une grande famille, mais j'ai commencé par la guitare, ouais, à 7 ans.
C'est quoi comme instrument ?
Alors, donc j'ai deux instruments, du coup, sur scène. Le premier, c'est un luth renaissance, qui est un petit instrument qui est assez ancien, du coup, qui est un instrument aigu. Je peux te le faire écouter. Il a 7 cordes, enfin 7 cœurs plutôt, qui sont des cordes doubles. Voilà, et puis tu vois, il a une forme cassée pour le chevillé. Et derrière, il a une forme de poire. Et puis il y a des côtes, ce qu'on appelle des côtes, tu vois, qui sont des larges bandes de bois. Et donc c'est un instrument ancien en fait. Voilà. Et puis il y a un deuxième instrument qui est le plus grand, qui est le théorbe. Au départ, c'était un petit luth, et puis on y a ajouté un grand manche, et puis il a des sons beaucoup plus graves. Tu vois, et je fais la sorcière avec. Voilà.
Vous avez d'autres projets avec le collectif Ubik ?
Pour l'instant, oui, il y a deux autres projets qui sont la Belle au bois dormant qui est jouée aussi, et puis il y a aussi La petite sirène qui va bientôt sortir, donc un troisième conte là, qui est en train de se faire. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais merci à toi Ismaël.
Let me introduce to you, Bozen, everybody Bozen. Here's a dance you ought to do. Let me introduce to you, Bozen, everybody
Ismaël
et Sacha,
on est allé voir Papik, créé par la compagnie Drolatique Industrie.
C'était un spectacle de marionnettes en bois.
Et c'était vraiment génial!
Cherche dans ma barbe et choisis un trésor!
Coucou tout le monde, c'est Manéa et Sacha. Nous sommes allés interviewer Gilles Debenat, comédien qui joue Papik dans Papik. On va vous faire écouter ce qu'il nous a dit.
Cher Papik,
pourquoi avez-vous choisi les marionnettes ?
Alors, pourquoi j'ai choisi les marionnettes ? Eh bien, moi, au tout début, quand j'étais petit comme toi, je voulais faire de la bande dessinée. Et du coup, j'ai fait des études pour devenir dessinateur de bande dessinée. Je suis allé à Angoulême faire les beaux-arts en section bande dessinée. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis après, j'ai continué, je suis allé à Paris, j'ai essayé de voir des éditeurs, mais ça n'a pas trop marché. Et puis pour moi, je faisais des petites sculptures qui bougent. Mais je pensais pas marionnette, pour moi c'était de la sculpture. Et j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, il existe une école pour devenir marionnettiste, parce que ce que tu fais en fait c'est de la marionnette. Et le concours de cette école tombait cette année-là. C'est à Charleville-Mézières, dans l'est de la France. Et du coup, j'ai tenté le concours, j'ai été pris. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'art de la marionnette et que j'ai découvert tout un monde qui s'ouvrait à moi et que j'ai adoré et qui regroupait plein de disciplines que j'aimais. Le dessin, le théâtre, le jeu, la mise en scène, enfin voilà. C'est comme ça que je suis tombé dedans.
Pourquoi parlez-vous d'une barbe où l'on trouve des trésors ?
Alors ça, c'est l'histoire de Papik. Donc Papik, au départ, c'est pas une histoire qu'on a écrite. C'est une histoire qui est tirée d'un livre pour enfants qui s'appelle Les Trésors de Papik. Et au départ, moi, je voulais faire un spectacle qui s'adresse aux tout-petits à partir de 3 ans. Et du coup, j'ai commencé à chercher. Et je voulais une histoire qui existe déjà, enfin, voilà, qui soit déjà écrite. Donc j'ai commencé à chercher à la médiathèque chez moi. Et je suis tombé sur cette histoire-là qui m'a bien plu parce que ça m'a rappelé une anecdote que moi j'ai vécue avec mon fils, qui à l'époque avait 3 ans, et qui a rencontré pour la première fois de sa vie ses arrière-grands-parents. Donc lui, mon fils, il avait 3 ans, ses arrière-grands-parents, ils avaient 90 ans, tous les deux. Et voilà, ils parlaient ensemble et le moment était assez incroyable. Il y avait plein d'émotions qui se mêlaient en même temps. C'était à la fois beau, à la fois un peu triste. Enfin, c'était. Et je trouvais que l'histoire des trésors de Papik, ça me permettait de mettre un petit peu toutes ces émotions dans cette histoire. Donc, les trésors dans la barbe, c'est vraiment tiré du livre Les Trésors de Papik, où l'histoire, c'est qu'il y a plein de le Papik dit qu'il a plein de trésors cachés dans sa barbe. Et donc là, dans l'histoire, il y en a 3. Il y a un petit clou, il y a un hameçon et il y a une rose. Et à chaque fois, ces objets-là qui sortent de sa barbe sont des objets qui sont prétextes pour lui à raconter ses souvenirs à lui. Et c'est une histoire donc du coup où il transmet ses souvenirs à sa petite fille. Dans le livre, c'est un petit-fils, mais nous, on en a fait une petite fille.
C'est quand même incroyable tous ces décors. Comment avez-vous fait pour que les décors bougent ?
Alors, moi, j'avais envie d'adapter cette histoire en utilisant la technique du théâtre de papier. Je ne sais pas si tu connais cette technique-là. C'est des petites maquettes, en fait, qui étaient utilisées. La première, on l'a découverte en 1901, je crois, en Angleterre. Et c'était un peu comme des petits jeux de société. Les gens allaient au théâtre, ils voyaient des pièces. Et à la sortie, il y avait une petite revue que les gens pouvaient acheter, où ils pouvaient reproduire le petit théâtre, où ils avaient les personnages en papier qui découpaient, qui collaient sur du carton, et ils pouvaient refaire la pièce pour leurs amis, pour la famille, tout ça. Et moi, j'avais envie d'utiliser cette technique-là, mais de faire comme si on était dans un énorme théâtre de papier géant, quoi, et où nous, Valérie et moi, on est comédiens à l'intérieur de ce grand théâtre de papier. Et du coup, je me suis inspiré. Alors nous, c'est un théâtre plutôt de contreplaqué, c'est que du bois. Et du coup, je voulais que ce soit tout en 2 dimensions, mais que ce soit quand même très articulé. Donc il y a plein de pièces de bois qui sont réunies les unes avec les autres, avec des articulations, avec des ressorts aussi pour avoir vraiment le mouvement des muscles des personnages. Et je me suis inspiré beaucoup de toutes les techniques de machinerie de théâtre à l'ancienne, avec les vagues qui bougent sur un système de pédaliers, avec les ouvertures de théâtre aussi. Il y a plein d'ouvertures de théâtre différentes possibles. Donc je voulais utiliser un petit peu toute cette technique-là. Mais c'est vrai que la construction m'a pris énormément de temps. Ça a pris 1 an à tout construire.
Où avez-vous créé vos décors ?
J'ai créé mes décors dans une banque. En fait, on a un local. Nous, on est en Bretagne, on habite à Redon, une petite ville en Bretagne. Et on a les locaux de l'ancienne Banque de France de Redon. C'est notre atelier de fabrication, notre atelier de répétition. Donc c'est tout le hall de l'ancienne banque qui est resté dans son jus. Il y a encore les vieux coffres-forts, le guichet en marbre et tout ça. Enfin, le lieu en lui-même est assez incroyable. Et c'est notre lieu de compagnie. Et du coup, j'ai construit le décor pendant 1 an dans la salle des coffres de la banque.
En parlant de banque, est-ce que ça a coûté cher de les faire ?
Alors, en fait, ça a pas coûté très cher de construire tout ça parce qu'on a utilisé beaucoup pas mal de matériaux de récupération et puis des matériaux qui sont pas forcément très chers au départ. Après, il y a eu en fait, le spectacle, on a mis 2 ans à le faire. Il y avait eu 1 an pour la construction et puis une autre année pour faire vraiment tout ce qui concerne les répétitions, créer la musique, créer les lumières. Donc tout ça, c'est des personnes effectivement qu'on paye, tu vois, et du coup, c'est là où ça coûte un peu plus cher. Mais c'est normal, c'est notre métier de payer.
Et pour finir, est-ce que vous pouvez dire comment vous suivre sur Internet ou...
Oui, alors on a un site Internet, donc ils peuvent taper Drolatique Industrie et ils nous trouvent. Et là, il y a tous nos spectacles que l'on joue, on a plusieurs spectacles au répertoire. Et il y a le calendrier de toutes nos tournées. Et puis, on a aussi une page Facebook.
Merci beaucoup.
Merci.
Avec plaisir.
Salut, c'est Ismaël et Lison. On est allé interviewer Valérie Berthelot à Valorcine. Elle était comédienne dans Papik.
Bonjour Valérie Berthelot.
Bonjour les filles.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire ?
Alors, ce qui me plaît dans cette histoire, eh bien, je crois que c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée que les choses, elles se perdent jamais, finalement. Elles se transmettent toujours du grand-père aux petits-enfants, des petits-enfants après, qui eux-mêmes peut-être vont devenir parents, ou même s'ils ne deviennent pas parents, ils vont transmettre des choses à des plus jeunes qu'eux, etc. Et que les choses, finalement, elles ne se perdent pas, elles s'enrichissent de génération en génération.
Est-ce que ça vous plaît de jouer derrière des marionnettes ?
Alors, écoute, oui, moi j'aime beaucoup, et c'est le mot juste, d'être derrière. Moi, je suis, ma formation, c'est d'être danseuse. Donc, avant, c'était le corps devant les marionnettes. Et puis après, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Mais il y avait un petit endroit, vraiment ce métier-là, entre la danse et le théâtre. J'aimais beaucoup, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Et j'ai découvert avec les marionnettes cet endroit-là, où derrière les marionnettes, à la fois on danse, à la fois on fait du théâtre. Et à la fois, on anime quelque chose, vraiment c'est ça, animer. On donne vie à quelque chose qui n'a pas de vie, donc il y a un petit côté magique que moi j'aime bien.
Est-ce que c'est la première fois que vous jouez des marionnettes ?
Non, c'est pas la première fois, parce que voilà, oui, j'ai fait d'autres spectacles avec des marionnettes, mais par contre, des marionnettes comme celle-ci, comme celle qu'a fabriquée Gilles, c'est la première fois.
Pourquoi Sacha veut savoir l'histoire de la barbe de son grand-père ?
Alors, Sacha, elle est fascinée par la barbe de son grand-père, parce que d'abord, c'est une grande, grande barbe qui pique. Et nous aussi, on est fascinés, on se demande bien, dans cette barbe, tout ce qui peut... Voilà, ce qu'elle est, en tout cas, ce que Sacha s'imagine qu'il puisse y avoir dans cette barbe. Et alors, du coup, c'est quoi ta question ? J'ai oublié le début de ta question, dis donc.
Pourquoi Sacha veut savoir l'histoire de la barbe de son grand-père ?
Elle veut donc savoir ce qu'il y a dans sa barbe, parce que son grand-père lui dit qu'il y a des choses dans sa barbe. Donc il y a quelque chose de très étonnant, et elle est curieuse en fait, Sacha. Voilà.
Depuis quand vous jouez ce spectacle ?
Alors, depuis quand on le joue ? Je vais demander à Cédric, parce qu'on n'entend pas Cédric, et puis il est important aussi dans cette histoire-là, parce qu'il y a donc Gilles qui joue, il y a moi qui joue, puis il y a Cédric qui fait les lumières, et Cédric, il est très au courant depuis combien de temps on joue cette histoire. Alors il va nous dire, Cédric, tu peux venir au micro vite. Cédric.
C'était la 115e fois qu'on joue le spectacle.
Voilà, 115e, et on joue depuis 2019. Voilà, octobre 2019.
Est-ce que c'est difficile de jouer des marionnettes ?
Ben non, c'est pas... C'est, en fait, ce qui est très difficile dans les marionnettes, c'est que c'est très rigoureux. Il faut être très, très, très appliqué, c'est très précis. Quand on leur fait faire un petit mouvement, ça raconte... Surtout que ces marionnettes-là, c'est comme des marionnettes presque comme du papier en deux dimensions. Elles n'ont pas de volume, donc du coup, elles sont expressives avec des tout petits mouvements. Et pour ça, il faut que ça soit très, 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 très précis.
Est-ce que vous avez d'autres projets ?
Alors la compagnie Drolatique, elle a plein d'autres projets, mais qui sont encore un peu secrets, je crois. Enfin, secrets. En tout cas, ils sont en train de se faire et ils sont dans l'atelier ou dans les têtes. Et ils ne sont pas encore prêts à être racontés.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et voici les impressions du public après le spectacle.
Qu'est-ce que t'as bien aimé dans le spectacle ?
Ben, le poisson, c'était sympa. Il y avait des beaux trésors dedans. J'ai aimé.
Oui, c'était très poétique, très joli. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, particulièrement ?
Cherche dans ma barbe et choisis un trésor.
Je sais pas.
T'as aimé le spectacle ? Dis oui, j'ai aimé. C'était super. Des très beaux décors, des très belles marionnettes, une belle histoire et des belles musiques.
Pique !
What you say, boy? You tryna play coy like a Game Boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy?
come get me done, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys.
Baby, I don't need you.
I don't need,
I just wanna freak you.
I want it, yeah.
I heard you a freak too.
That's right.
What's 2 plus 2?
De l'attraction Traversée du Glacier.
Nous sommes allés demander à des personnes comment ils se sentaient avant cette expérience complètement folle.
On se sent très bien, on a hâte de traverser ce glacier et de voir dans quelles conditions ça se passe.
Et toi ?
Moi j'ai bien envie de le faire.
Cool, merci.
Allez Isma, on va dans le glacier. Attends Manéa, avant d'y entrer, écoutons les conseils et les instructions de Fabrice, guide expérimenté en fausse montagne, pour nous expliquer comment aller en toute sécurité dans le glacier.
Salut les jeunes, de retour, ok super. Bon, tu l'as jamais fait toi ? Tu t'appelles comment ?
Sacha.
Sacha, salut Sacha, ça va mon pote ? Moi c'est Fab. Bon, hé les enfants là, on part sur une traversée de glacier, d'accord ? En cordée, dite autonome, d'accord ? Qui veut dire qu'une fois que vous serez là-haut, vous serez que tous les deux, d'accord ? Livrés à vous-même, ok ? Parce que Isma et Manéa, qui sont des alpinistes confirmés, ne seront pas là pour vous accompagner les jeunes, c'est clair ? Attention, la montagne, hein, c'est quand on croit qu'on la connaît, qu'elle nous punit, qu'elle nous rattrape, d'accord ? La montagne est plus forte que toi, rentre bien ça dans ta tête, d'accord ? Si tu la respectes pas, elle te respectera pas, d'accord ? Respecte-la s'il te plaît. Bon, la météo là-haut, franchement, c'est pas joli joli les jeunes, d'accord ? C'est neige, c'est vent, c'est froid, c'est glace, d'accord ? Ça va être dur mon pote, ok ? Hein ? Donc tu te prépares mentalement, d'accord ? Pour la sécurité, les lunettes sur les yeux. On les retire sous aucun prétexte, d'accord ? Pour éviter toute projection de neige, perte de visibilité, donc accident. Maintenant, tu vas venir et tu vas prendre la tête de cette corde, ok ? Disons, il compte sur toi pour que tu le ramènes en vie, d'accord ? Et moi aussi, je compte sur toi, ok ? La corde, on part à deux, on revient à deux ou on revient pas. C'est clair, ma grande ? La corde, elle est sur la droite, d'accord ? Tu la saisis, tu continues toujours d'avancer quoi qu'il arrive, sans jamais t'arrêter, sans jamais repartir en arrière. T'as entendu, mon pote ? Ok ? Tu la laisses coulisser le long de ta main et tu files jusqu'au sommet. Ça va aller, ma grande ? Ok, je vous souhaite une bonne traversée de glacier.
Votre impression de cette expérience ?
C'est long et difficile, mais la vue là-haut est magnifique. Ça vaut le coup.
Merci.
C'était très dur et il faisait super froid.
Je sais que vous avez envie de savoir le secret du glacier, donc je laisse la parole à Ismaël.
Pour savoir le secret, je vais vous faire une devinette. C'est froid, ça se mange en été, c'est sucré et la personne qui le prépare s'appelle un glacier.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
C'était de la glace !
Et ça, c'est la classe.
Sacha, Lynn et Lison sur Globule Radio. On est à la salle des fêtes de Servoz au festival des petits asticots.
Après le spectacle Pistache, nous avons interviewé Laure Isabelle Blanchet.
Vous travaillez avec des marionnettes. Comment vous les avez fabriquées ?
J'ai fabriqué mes marionnettes avec différents matériaux. Il y a du plastique, du PVC, ça s'appelle. J'ai essayé de faire en sorte que le plastique ressemble à un bracelet. Donc il a fallu que je le passe dans un truc pour le chauffer, dans une machine pour chauffer la matière, et après dans une presse avec un moule. Et du coup, ben voilà, maintenant, après ça fait par exemple le cornet de la glace. Et puis la glace des autres glaces, les boules, elles sont faites soit en tissu, soit en mousse. Il y a plein de matériaux différents en fait.
Comment vous avez fait la fumée ?
Alors, la fumée, elle est faite avec une petite machine qui a été achetée exprès pour le spectacle, qui est une petite machine qui est vraiment comme une petite boîte à bonbons, comme ça. Et il y a une sorte de télécommande dans mon tablier. Et du coup, c'est magique, ça fait en sorte que j'envoie un signal sur ma télécommande et ça fait fumer la machine à fumer dans la charrette de pistache.
Vos marionnettes ressemblent à des doudous. Quel est votre doudou d'enfance ?
Oh, mon doudou d'enfance. Oh, je sais pas exactement. Je crois que j'avais une peluche en forme de hérisson. C'est celle que je me souviens le mieux. Voilà, celle du hérisson.
Pourquoi vous avez choisi la tranche d'âge 1-3 ans ? Comment on parle à cette tranche d'âge ?
Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien le public 1-3 ans ? Parce que ce sont en fait les premiers spectacles qui voient à cet âge-là. Quand on a un an, on n'a jamais vu de spectacle. Donc moi, j'aime bien l'idée de faire des spectacles pour des gens qui n'ont jamais été au théâtre. Voilà pourquoi j'aime bien ça. Et puis parce qu'ils sont très spontanés, les enfants à cet âge-là. Ils réagissent hyper vite et hyper fort. Et j'aime bien ça. Et puis après, comment est-ce qu'on leur parle ? On va dire avec des mots simples, des histoires pas trop compliquées, parce que s'il y a plein de personnages et plein de péripéties, ils sont pas là-dedans. C'est pas des choses qu'ils comprennent. Et puis on leur donne des choses rigolotes à voir. Et puis voilà, je crois.
Quel est votre parfum de glace préféré ?
Moi j'aime bien la pistache. Et toi ?
Moi, c'est chocolat. Pistache, c'est un mot magique ?
Non, pas vraiment. En fait, si je répète pistache, parce que je pense que c'est ça la question, hein. Si je répète pistache là pendant le spectacle, c'est parce qu'en fait, j'ai un problème technique. Normalement, c'est moi qui dois envoyer les morceaux de musique. Et comme j'ai un problème... C'est pas moi qui peux le faire. Alors du coup, j'ai demandé à un technicien du festival de faire la régie du spectacle, d'envoyer le son. Le truc, c'est que lui, il ne le connaît pas, le spectacle. Donc, il faut bien que je lui dise quand envoyer la musique. Et donc, je dis pistache. Beaucoup moins poétique.
Est-ce que le spectacle, c'est un peu un délire clown ?
Alors, je pense qu'on peut le voir un peu comme ça. C'est pas un clown à nez rouge, mais il y a plein de clowns différents. Ouais, je me suis pas mal inspirée des films de Charlie Chaplin. Donc, par exemple, je sais plus exactement dans quel film c'est maintenant, mais il a une poche à sucre. Et du coup, dans son gilet, il a une cuillère avec du sucre. Et par exemple, ça, j'ai piqué franchement à Charlie Chaplin.
C'était Lynn, Sacha et Lison sur Globu Radio. Merci de nous avoir écoutés.
Merci Lynn, Lison et Sacha. Et merci au Festival des Petits Asticots pour cette très belle édition. Et surtout,
joyeux anniversaire!
Et restez à l'écoute de Globu Radio 90.5 FM. Merci.
Yeah.
Tchuss.